Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode! Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Extraterrien et je m'appelle Barthélémy Fent. Dans ce podcast, je me suis lancé le défi d'aller interviewer les sportifs les plus inspirants. Donc si vous aimez le sport, l'aventure ou tout simplement les interviews de personnes inspirantes, et bien ce podcast est fait pour vous. Dans l'épisode du jour, je suis allé interviewer Jevriz Eman. Jevriz Eman est tout simplement 3 fois championne du monde de judo dans la catégorie moins 70 et moins 63 kilos. Puisqu'elle a changé de catégorie durant sa carrière. Elle a aussi une médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, elle s'investit énormément pour les jeunes puisqu'elle les aide à trouver leur parcours professionnel au sein de l'INSEP. Et c'est aussi une personne que j'ai beaucoup aimée puisqu'elle s'est ouverte, elle a avoué ses difficultés. Comme elle le dira dans le podcast, c'est une travailleuse. Elle a vraiment mis toutes les chances de son côté avec des outils de développement personnel, notamment d'écriture et de visualisation, de réalisation de ses objectifs. Donc si ça vous intéresse, je vous recommande vraiment l'épisode. Juste avant de commencer, je vous fais un petit rappel si jamais vous aimez le podcast. Ce qui m'aide le plus, c'est 2 choses. La première, c'est tout simplement de parler de ce podcast autour de vous, à vos amis sportifs ou pas. La seconde, c'est d'aller sur Apple Podcasts ou iTunes et d'aller mettre une review de 5 étoiles et un petit commentaire. C'est vraiment ce qui permet au podcast de monter dans les classements et moi derrière, ça lui donne un petit peu de visibilité. Donc ça me fait vraiment super plaisir et ça me motive à continuer. Enfin, si vous voulez découvrir les coulisses du podcast et que vous voulez suivre un petit peu l'actualité sur les réseaux sociaux, sachez que je suis présent sur Instagram, sur le compte extraterrien.podcast et j'ai aussi une newsletter que vous pouvez trouver facilement en tapant extraterrien newsletter dans Google. Allez, j'ai fini avec mes petites recommandations, donc je vous souhaite un excellent épisode avec Jevriz Eman. Salut Jevriz.
Salut Barthélémy.
Ça va bien?
Ouais, ça va, impeccable, il fait beau.
Ah ouais, nickel. Mais merci beaucoup en tout cas pour ce petit cadeau que tu me fais de venir à l'INSEP, c'est toujours un grand plaisir.
De rien.
Et de rien. Je te disais à l'instant, je commence toujours les épisodes par une question qui devient un petit peu une habitude maintenant. C'est quel est ton premier souvenir de sport?
Mon premier souvenir de sport? Ah, faut que je remonte loin. Non, mais c'était la finale. Il me semble que c'était au championnat du monde de Tokyo, de saut en longueur, entre Carl Lewis et Michael Powell.
Okay.
Et j'avais
finale.
été, ouais, voilà, c'était une finale qui était magnifique et j'avais été très impressionnée par la capacité à se dépasser et aller au bout de soi-même et pour et à faire mieux que l'autre, quoi. Et il se rendait du tac au tac et c'est ça que j'ai trouvé très impressionnant.
Ok. Ouais, et ça t'a donné envie de faire du saut en longueur après?
Pas for... non, non. Non, non, pas du tout. Pas donné envie de faire du saut en longueur, mais voilà, c'est quelque chose après que j'ai gardé et que j'ai retrouvé sur d'autres compétitions en observant d'autres sportifs et sportives. Et après, bon, moi, après, quand j'ai décidé de faire du sport de haut niveau, bien sûr, mais en fait, j'étais jeune, mais ça m'avait déjà bien impacté.
Ok.
Déjà bien impacté, ouais.
Mais en plus, c'était un super beau duel. Enfin, eux, ils se sont fait une compétition pendant des années et des
Oui,
années.
oui.
En plus, même à la fin, ils ont eu des paroles pas très sympas l'un pour l'autre, je crois.
C'est vrai. Mais en tout cas, sportivement, ce jour-là, c'était incroyable.
Ouais.
Ouais.
Et du coup, c'est quel sport après t'as pratiqué?
Moi, j'ai pratiqué la danse quand j'étais jeune. Après, j'ai fait de la musique, j'ai fait du piano. Et c'est seulement à l'âge de 13 ans que je suis arrivée au judo, mais j'ai fait toutes les activités physiques et sportives proposées à l'école, hein. Et à 13
Ouais.
ans, au collège, voilà, j'ai découvert ou redécouvert le judo parce que j'avais déjà fait une première initiation. J'étais à l'école maternelle. J'étais à l'école maternelle. Et voilà, après, ça m'avait pas plus marqué que ça, mais j'avais apprécié les échanges et tout. Mais c'est vraiment au collège où j'ai redécouvert l'activité judo. Et après, c'est devenu mon sport de prédilection.
Bah ouais. Et tu te souviens de ce qui t'a plu? Ce qui t'a marqué ou les premiers souvenirs sur un tatami?
Alors, mais les premiers souvenirs, bizarrement, c'est pas sur un tatami, c'est plutôt l'ambiance extra compétitive.
Ok.
Et voilà, le fait de partir tous ensemble en mini-car, de se balader un peu partout, d'aller à la rencontre des autres, c'est ça. C'était plutôt voilà l'ambiance, la convivialité, le fait de se retrouver avec son équipe, c'est ça qui m'a plu de prime abord.
Ok, mais c'est
Ouais.
marrant ce que tu dis parce que ça revient très souvent, l'esprit de dire le premier souvenir quand on a un enfant, c'est surtout un peu les copains, la camaraderie,
Ouais, c'était vraiment ça.
le...
C'était ce que je trouvais ça top parce que quand même on était issus du même collège, bah, je connaissais pas vraiment tout le monde, mais le fait de se retrouver sur une activité tous ensemble, et ben ça c'était génial quoi. Je
Ok, ouais.
kiffais.
Et la compétition aussi, tu kiffais?
La compétition, je kiffais la compétition, les entraînements aussi, même si c'était. Alors au début, c'était tranquille, hein. Et après, ça s'est intensifié avec le temps. Mais ouais, j'aimais bien le fait de pouvoir battre des judokas plus gradés que moi en fait, parce que je
Ouais.
débutais, donc j'étais ceinture blanche, mais après je suis passé direct à la ceinture orange en
Ah
fait.
ouais, tout de suite, ouais.
J'ai sauté quelques échelons. Et quelques dames, grades, on va dire. Et du coup, ouais, je me suis retrouvé ceinture orange, mais j'arrivais à battre des ceintures marron. Et ça, je trouvais que c'était génial.
Ah ouais.
Ah ouais.
C'était de défier des plus fortes que toi, en
C'est
fait.
ça, c'était exactement de défier des plus fortes que moi, de pouvoir les mettre en danger. C'était valorisant. Et puis, ça me permettait je me mettais des défis, en fait.
D'accord, ok.
Ouais.
On est rejoint.
Ça
Mais ouais, ça m'inspire. Enfin, je trouve, j'imagine la petite fille qu'il y avait à l'époque et qui se lançait des petits défis. Et en plus, après, alors dis-moi si c'est du blabla de journaliste, mais j'ai lu après, enfin récemment, avant de venir, dans un article que tu étais plus petite dans ta catégorie de poids maintenant. Et que du coup, ça avait dû muscler un peu ton style de combat et que du coup, bah, t'étais super explosive et que c'était un peu ton style. Est-ce que tu penses que tu l'as développé un petit peu à cet âge-là, justement, en essayant de vouloir battre des filles qui étaient plus avec plus de grade que toi, justement, et sûrement peut-être un peu plus âgées et plus.
Bah, je pense que de toute façon, ça m'a accompagné et ça m'a aidé dans ma progression, de pas se mettre de barrière au final, parce que c'est ça, c'est de se pas se mettre de barrière, de se dire que même jeune, même en débutant, je me disais que bah, tout était possible, que c'est pas parce que je suis ceinture orange que je n'étais pas capable de battre une ceinture marron. Et ouais. Je pense que ça, et ça commence là, en fait, de pas se fixer des limites. Et le sport de haut niveau, c'est ça, on est tout le temps en train de repousser ses limites, ses propres ouais. limites physiques, mentales. Et des records, voilà. Tout à l'heure, je parlais de cette fameuse finale en saut en longueur, mais c'est pareil aussi en judo. C'est-à-dire, voilà, moi, il fallait à un moment donné que je sois capable eh ben, d'aller au-delà, de construire mon judo et de l'adapter au-delà de ce que je pouvais être en mesure de faire. Donc, de trouver des nouvelles stratégies, que ce soit sur l'aspect du kumikata qui est la saisie ou sur des aspects purement techniques ou tactiques. Et ça, c'est une manière aussi de repousser les limites.
Ok. Ouais, bah j'imagine un peu. Et c'est à quel âge que tu as commencé à te dire bah justement la limite, l'objectif, c'est peut-être le haut niveau, les compétitions mondiales. Tu le réalises ça quand t'es une jeune fille et que tu fais de la compétition?
Moi, non, je ne l'ai pas réalisé tout de suite. Moi, ce qui m'importait, c'était d'aller en compète, de gagner. de progresser et je rêvais pas Europe, monde et jeux. C'est bien plus tard, c'est quand je suis arrivé ici à l'INSEP que ouais. j'ai commencé à voilà, ça a fait son bonhomme de chemin en fait. Peut-être que contrairement à mes camarades athlètes, ouais, j'ai pensé différemment. En tout cas, ça m'a pas habité tout de suite. C'est okay. venu un peu plus tard.
Du coup, c'est un peu l'INSEP qui t'a aidé
à me construire en tant qu'athlète, oui.
Ouais, peut-être.
Oui.
Et t'es arrivé à quel âge? Vers 18 ans, c'est
Moi,
ça?
Moi, je suis arrivé à l'INSEP, oui, j'avais 18 ans.
Okay. 18 ans. J'ai bien bossé. C'est ça. J'ai bien fait des calculs.
J'avais 18 ans, ouais. J'étais jeune, 18 ans. Bon, maintenant, il y en a qui rentrent plus jeunes, hein. Mais ouais, ouais je suis arrivé à l'âge de 18 ans, tout okay. à fait.
Et ça t'a fait quoi d'ailleurs d'arriver ici avec tous ces champions, toutes ces photos d'athlètes, tous médaillés il y a énormément de monde. Enfin, moi, énormément la première fois que je suis arrivé, je me sentais comme une fourmi.
Disney.
Ouais, exactement, comme une fourmi à Disney, ouais, c'était un peu ça.
Bah écoute, c'était effectivement impressionnant. Et puis moi, il y avait plusieurs changements parce que j'avais jamais connu de pôle avant celui d'INSEP. Alors, j'avais été à Bretigny, mais en externe, parce que j'étais déjà à la fac. Donc, du coup, puis mes parents m'avaient bien fait comprendre que c'était les études avant tout. Merci papa, merci maman. et donc, du coup, quand je suis arrivée, voilà, j'avais jamais connu d'internat. Donc, c'était la première fois que j'étais dans un internat. Bon, ça s'est très bien passé, hein. Mais voilà, il y a pas mal de changements et puis aussi le rythme d'entraînement, c'est-à-dire que c'est des entraînements bi-quotidiens, alors que moi je m'entraînais dans mon club à Neuilly-Plaisance, c'était juste à côté. Hein. Je pouvais m'entraîner, aller au max, je pouvais faire 4 entraînements par semaine. Alors quand vous passez de 4 par semaine maximum à 2 par jour, ça fait bizarre, ça cogne et qui plus est avec... Et avec aussi la charge de formation. Moi, j'étais à la fac, donc j'avais une charge universitaire qui était importante. Donc, il fallait que je puisse combiner tout ça. Et c'était pas simple. Les premières années étaient vraiment pas simples.
Ouais. Et comment tu t'organisais, du coup, avec tous ces entraînements et tous ces cours? Tu te souviens d'avoir mis en place des petites routines,
oui.
des petits
ouais, ouais,
des
j'avais
petits conseils.
Mis, j'avais mis en place des routines. Bon, déjà, je savais que j'avais une grosse capacité de travail en autonomie, donc ça m'a énormément aidé. Et ensuite, je m'étais fait un planning. Donc, il y avait le planning entraînement, mais moi, j'avais aussi mon planning des cours. Et j'essayais de que les deux puissent matcher ensemble, en fait.
Ouais.
C'est ça. Et j'avais je me mettais des créneaux de travail le soir, notamment. Avant d'aller me coucher, après l'entraînement et avant d'aller me coucher. À cette époque-là, je ne faisais pas la sieste parce que je n'avais pas le temps, parce qu'il fallait que j'aille à la fac entre les deux entraînements. Et puis au fur et à mesure, je me suis aussi organisé autrement. C'est-à-dire que une fois avoir eu la licence, c'était un peu plus tranquille, entre guillemets. Donc du coup, j'avais des plages horaires plus larges. Et puis je me suis rapproché, c'est-à-dire qu'à mes débuts, ma fac était à 1h30 d'ici. De mon site d'entraînement. Et après, je me suis rapproché. Elle n'était plus qu'à 1 heure, voire 45 minutes.
Ouais, quand même.
Et au final, et après, je me suis rapproché pour que ça soit plus qu'à 20 minutes. Voilà.
Bah, au bout d'un moment, il faut optimiser le temps, quoi.
Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça.
De perdre du temps dans les...
Non, c'est ça. Et puis, parce qu'il y a la fatigue. Et puis, Aussi, ce qui a été mis en place avec l'INSEP et la Fédération, c'est qu'il y avait un professeur de droit qui venait me donner des cours de droit directement ici sur l'INSEP. Ça avait été accepté. Et j'avais meulé parce que je m'en sortais plus. Et puis, les entraîneurs avaient été à l'écoute. Donc ouais. Ça, j'ai... Et alors que, bon, on pourrait penser que certains ne le sont pas. Mais en tout cas, moi, dans mon cas, ils ont été vraiment à l'écoute. Et parce que aussi, j'ai pas laissé le choix. C'est-à-dire que, bon, non, moi, je veux terminer mes études et moi, c'est mon équilibre. Donc, si vous me donnez la possibilité, eh bien, à la fois d'être performante sur le tapis et de l'être aussi dans mes études, bah, il n'y a aucun problème. Et donc, c'est la solution qui avait été trouvée, payée en partie par mes parents et en partie par la fédération. Donc, ça, c'était un accompagnement individualisé, personnalisé.
Ok, super.
Ouais, qui est mis en place ici à l'INSEP. Et c'est l'été à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui. Et c'est ce qui permet aux athlètes de pouvoir. S'épanouir, parce qu'en fait c'est ça, c'est s'épanouir au niveau sportif et s'épanouir aussi dans sa vie personnelle et dans sa vie future.
Ouais. Et ça te tient à cœur parce que du coup maintenant, comme tu me disais à l'instant, tu aides du coup les jeunes athlètes sont à l'INSEP à prévoir.
Jeunes ou moins jeunes d'ailleurs.
Jeunes ou moins jeunes.
Voilà, je fais partie de la cellule d'accompagnement au pôle haut niveau à l'INSEP. Et donc dans cette cellule d'accompagnement, comme son nom l'indique, on accompagne les sportifs de haut niveau dans leur projet de performance, donc avec une valence sur le projet de formation. Donc c'est-à-dire c'est constituer un parcours de formation personnalisé et adapté à chaque athlète. Et la deuxième valence, c'est d'accompagner le sportif à faire de l'introspection et à construire son projet professionnel.
Ouais.
Voilà.
Mais j'ai vu que tout au long de ta carrière, tu avais eu énormément de projets associatifs que tu avais mis. Et tu as même mis, d'ailleurs, je voulais t'en parler, tu es une des rares sportives à mettre les valeurs qui comptent pour toi sur ton site internet.
Oui.
J'avais vu ça. Et il y avait notamment le don de soi. Mm. Et on le voit aussi, tu t'es investi dans beaucoup d'associations. Là, tu t'es investi pour les jeunes. Qu'est-ce que ça représente tout ça pour toi, le fait de redonner effectivement de ton expérience, de ton temps?
J'ai envie de dire, c'est aussi un juste retour des choses, mais c'est parce que pour moi, je suis convaincue que ça participe à la performance, en fait. Et le fait de donner de sa personne, ça peut permettre de débloquer certaines situations et ça peut insuffler, inciter. Et que ce soit au sein d'associations ou auprès de sportifs de très haut niveau, et en fait, c'est la même chose. Et c'est de l'humain, parce qu'avant tout, c'est de l'humain.
Ok. Et là, du coup, tu continues un petit peu à t'investir dans des projets associatifs à côté ?
Je continue, oui, je continue, notamment avec l'association Les Enfants du Jardin, dont je suis la marraine, donc qui est une association qui accompagne les enfants qui sont atteints de maladies du métabolisme.
Ouais.
Ce sont des maladies génétiques. En fait, ils ont du mal à assimiler notamment la protéine. Ils sont suivis par ce qu'on appelle un régime hyproprotidique, donc avec des compléments alimentaires bien, bien spécifiques. Et ils peuvent... en fait, ils s'alimentent principalement de fruits et de légumes. Et à côté de ça, ils ont des compléments alimentaires pour pouvoir rééquilibrer tout ça. Et ouais, c'est pas simple à vivre au quotidien quand on est un enfant malade déjà. Mais c'est pas simple aussi pour la famille, pour les frères et sœurs. Donc l'idée vraiment de l'association, c'est une association qui est familiale. Donc c'est de faire au mieux pour ces enfants, pour ces familles. Et à la fois être à l'écoute, parce que voilà, lorsque vous avez un enfant qui est malade, ça vous tombe dessus comme ça, c'est pas simple à gérer. Et on peut aussi servir de personnes relais, de personnes ressources auprès des hôpitaux notamment ou de la pharmacie centrale. Et on organise des week-ends régionaux une fois par an et des activités pour permettre aux enfants de sortir un peu de leur quotidien. À la fois de rencontrer des enfants qui ont aussi une maladie qui s'apparente à la leur, mais ça leur permet aussi de pouvoir faire autre chose, des activités sportives ou culturelles, et d'être un peu déconnectés de ce qu'ils peuvent vivre au quotidien.
Écoute, en tout cas, je te demanderai les petites coordonnées pour que je puisse les mettre dans les liens de l'épisode, parce que ça serait bien que les gens puissent regarder, et en tout cas, tu donnes envie un peu de le voir. Et je me demandais quel était, justement, pour une association comme celle-ci, quel était un petit peu la force et les bénéfices d'avoir une personne comme toi qui les accompagne, qui leur donne de la visibilité. J'imagine qu'il y a beaucoup de visibilité, il y a aussi
oui.
un petit peu d'écoute et de l'impact un peu médiatique, mais qu'est-ce que ça leur apporte d'avoir une sportive de haut niveau en tant que marraine ?
Alors il y a la visibilité, mais je pense que ça va au-delà. C'est aussi dans, tout à l'heure tu parlais de dépassement de soi, et c'est aussi ça, je pense. Alors moi, dans le domaine qui est le mien, le domaine sportif, mais de se dépasser, et le don de soi aussi. Et le fait de malgré une situation difficile, d'aller puiser au fond de soi-même pour trouver les ressources pour avancer. Et je pense que c'est ça le message qui est recherché.
Okay.
par l'association et ce qu'ils veulent insuffler aux enfants. C'est-à-dire que voilà, toujours cette volonté d'aller de l'avant, d'avancer malgré la maladie, malgré les difficultés, malgré le fait d'être à l'hôpital toutes les semaines, parce qu'il y en a des enfants qui sont à l'hôpital toutes les semaines, c'est pas drôle. Donc je pense que c'est ça. Et puis, de l'écoute, et puis aussi de voir autre chose.
Ouais.
C'est-à-dire voilà, le monde du sport, des activités physiques et sportives. Par exemple, à Londres, lorsque j'ai fait les Jeux, en fait, j'avais organisé. Alors, on organise pas mal de projets, mais là, ça me tenait à cœur, c'était d'emmener les enfants aux Jeux Olympiques à Londres.
Okay.
Et ils sont venus, donc ça, c'était top.
Ok. Ah oui, donc ça fait longtemps alors que tu es avec cette
association. Ouais, ça fait longtemps.
Ok. Félicitations en tout cas pour.
Félicitations à eux, ils me supportent. Hein, Non, ça se passe bien. Mais... Et il y a d'autres projets en cours, et j'espère qu'ils verront le jour.
Bon bah.
Ce serait bien.
Ouais, mais c'est tout le mal que je te souhaite en tout cas.
Ouais,
mais,
merci.
Mais c'est marrant parce que tu vois, j'en parlais avec Marie-Amélie Le Fur, mm-hmm. et elle me disait juste le fait de leur montrer que c'est possible, de montrer à des enfants que c'est possible, que ça existe, mm. que c'est pas juste derrière un sportif de haut niveau, c'est pas juste derrière un écran, c'est pas juste sur une photo. Rien que ça donne énormément d'espoir, et
Exactement.
Le fait de mettre du contact physique et du lien, donc c'est ça. Je trouve ça très beau en tout cas. Bravo et champion du monde pour ça. Attends, j'ai un petit problème de micro, je crois. Ah, c'est bon. Je fais un petit peu du coup un petit saut en arrière, mm-hmm. sur ta carrière de sportive. T'as eu un super palmarès. Je voulais savoir un petit peu, c'est un peu le but aussi de ce podcast, c'est de comprendre à quel moment t'as eu le déclic et quel moment t'as eu l'envie, comment tu l'as construit, et de comprendre un petit peu comment est-ce que tu y es arrivé. Et du coup, je voulais savoir un petit peu entre ton arrivée à l'INSEP, mm-hmm. et tes premiers titres internationaux. Tu as dit que c'était très dur, qu'il y avait énormément de boulot.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a fait tenir et qu'est-ce qui te motivait au-dessus de tout ?
Ce qui m'a fait tenir, c'est l'envie de ne pas lâcher, parce que je suis quelqu'un qui ne baisse pas les bras facilement,
ouais.
au final. Et puis de se dire aussi, voilà, et puis le rêve, c'est-à-dire le rêver des... Alors même si je n'ai pas rêvé des Jeux tout de suite, ou des championnats du monde, ou des championnats d'Europe, mais rien que se dire que déjà je suis au bon endroit, si je suis là, c'est parce que je le vaux bien, mais pas seulement, ça c'est la première étape, mais derrière, c'est qu'il faut faire quelque chose de ça en fait.
Ouais.
Et moi j'avais envie d'avancer, de me prouver aussi que j'étais capable d'eux. Donc ça, c'est l'ego qui parle. Mais j'ai envie de dire de l'ego bien placé. De l'ego bien placé au final. Et c'est ce qui m'a porté, ce qui m'a permis de tenir. Et même si c'était difficile, parce que j'étais pas douée. À la base, je suis pas quelqu'un de doué. Moi, je suis une travailleuse. Je suis pas quelqu'un de doué. Je travaille. C'est en faisant, en travaillant, en étant dans l'action que je progresse et que je me réalise. Et donc ça m'a demandé beaucoup d'investissement sur tatami, mais aussi en dehors. Quand je dis en dehors, c'est tout ce qui a trait à la performance. Parce qu'entre lorsque je suis arrivé en 2001 à l'INSEP et mes premiers titres, même mon premier podium international, il y en a eu du temps. Il y a eu deux, voire même trois ans, donc voire plus. Donc du coup, voilà, il faut tenir, il faut pas lâcher, il faut rester motivé. Et je pense que j'ai bien fait, non ?
Bah oui. Bah, bien sûr.
J'ai bien fait. Et tu parlais de déclic. Et j'en ai eu un... il y en a eu plusieurs, mais moi, je fonctionne par étapes. Donc, c'est-à-dire que... ok, Jeff, tu vas être championne du monde, très bien. Par où tu passes? Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois championne du monde? Avec qui je dois travailler? Donc, tout ça, je prenais une feuille, je mettais en place. Hop, moi, je vais être championne du monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je sois la numéro 1 française. Pour être la numéro 1 française, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que je sois championne de France. Donc, en fait, donc j'avais mis comme ça des étapes pour moi à valider. Et à chaque étape validée, bah, ça me permettait de dire, bon, bah, ok, là, en gros, tu es compétente pour aller à l'étape au-dessus. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné et j'ai continué à fonctionner comme ça jusqu'à la fin de ma carrière. Et j'ai eu des déclics, notamment au tournoi de Paris, le premier tournoi de Paris que je fais en 2003. Je ne dois pas faire le tournoi de Paris. Je me suis planté en France, je fais 7. Derrière, il y a une poule de sélection, ici à l'INSEP. Je me plante à la poule de sélection. J'étais quand même sélectionné sur le tournoi de Bulgarie. C'était mon premier podium.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Donc déjà, j'étais hyper contente. Mais la semaine d'après, il y a le tournoi de Paris, mais je ne fais pas le tournoi de Paris. Mais c'est pour moi, bon voilà, c'est pas grave. Sauf que la titulaire, l'une des titulaires au tournoi de Paris se blesse. Et qui rentre? C'est moi qui rentre parce que j'étais remplaçante, la première remplaçante. Donc c'est moi qui rentre. Et je fais 3 au tournoi de Paris. Et là, je me suis dit, bah, c'est bon, t'es au bon endroit au bon moment. Maintenant, je peux y aller, quoi. Donc ça a permis de valider tout ce qui avait été fait en amont. Et surtout de me dire que moi aussi, j'étais capable d'eux. Parce que quand tu vois les autres rentrer avec les médailles, tu te dis, ah ouais, c'est cool, c'est bien. Mais toi, là, tu vas quand? C'est quand t'attends ton tour, en fait. C'est quand mon tour? Et ben, en fait, voilà, j'ai réussi à saisir l'opportunité.
Ouais, le jour où tu as eu ta chance, tu l'as saisi tout de suite.
C'est ça.
Et le travail que tu avais fait avant a porté ses fruits, quoi.
Oui, ça a porté ses fruits à ce moment-là. Et en fait, le tournoi de Paris de 2003, ça a été ma compétition de référence. Parce que c'est là où j'ai eu le déclic. Ça a toujours été ma compétition de référence. Ce qui signifie que même pendant les périodes de doute, où j'étais pas bien, et même en tant que championne du monde, à chaque fois, j'essaie de me remettre dans le même état d'esprit que sur cette compétition. Parce que j'étais jeune, certes, mais je me prenais pas la tête. J'étais péchu, j'étais déterminé. Enthousiaste, enfin voilà, il y avait plein de choses comme ça qui m'ont permis d'être bien sur cette compétition. Et ben, j'ai essayé de retrouver ça tout le temps, tout au long de ma carrière, avec cette insouciance là du premier tournoi de Paris.
Ok, d'accord, ouais. Mais c'est marrant d'avoir un souvenir après comme ça qui reste pendant longtemps et que
tu vas réutiliser après tout au long de ta carrière.
C'est grâce à un coach qui t'a dit de réutiliser ce moment-là. Tu t'es fait accompagner justement pour un peu cette phase de visualisation, on va dire.
Ouais. Alors au début, non, parce que je faisais un peu toute seule, parce que je connaissais pas trop comment ça fonctionnait. Et puis voilà, je suis un peu toute seule. Mais après, oui, en discutant, en échangeant déjà avec les copines de l'équipe de France et en échangeant avec mes différents entraîneurs. Et puis après, j'ai aussi changé de club à un moment donné. Donc, je suis passé dans un club de haut niveau. Et c'est là aussi, en 2005. Et là aussi, ça fait partie d'une des grosses étapes de ma carrière. Où là, voilà, j'ai commencé à devenir une athlète de très haut niveau.
Bah ouais. Et je voulais te demander, une fois qu'on arrive championne du monde en judo, alors certes, tu pourras me dire, il y a les JO. Mais comment est-ce qu'on fait pour se remotiver à avoir une carrière longue? Parce que toi, moi, ce que je trouve admirable dans ta carrière, c'est que tu as combattu pendant très longtemps.
Ouais.
Et on sentait que tu aimais ça, que tu étais une passionnée. Comment t'expliques un petit peu cette longévité et cette constance aussi?
J'ai envie de dire, c'était ce qui m'a fait avancer et tenir, c'est le rêve olympique. J'ai toujours, c'est ça en fait qui m'a permis d'avancer à la recherche de l'or olympique. Et après, ce qui m'a fait tenir aussi, je sais pas, j'avais envie tout simplement. J'avais, bah, tout simplement, c'est peut-être un peu plus complexe que ça, mais j'avais envie de réussir et surtout de pas avoir de regrets. C'est-à-dire que lorsque je me retourne, je voulais être convaincu d'avoir tout essayé, d'avoir tout mis en place pour y arriver. En fait. Okay. C'est ça. En fait, c'est pour ça que je pense, c'est pour ça que ma carrière a été aussi longue et que j'ai été. Alors, j'ai pas été tout le temps au top, mais en tout cas, ça m'a permis de tenir et d'aller chercher des titres mondiaux, une médaille olympique et des titres européens, et avoir cette carrière.
Ouais. Il y a une super, enfin il y a plein de générations de super judokas en France. Mm-hmm. Ça fait maintenant plus de 20 ans qu'il y a des championnes du monde presque de tout le temps. Comment tu l'expliques ça aujourd'hui avec le recul et maintenant que tu connais un petit peu tout le monde là depuis tout à l'heure, tu dis bonjour à tout le monde. ça sent que c'est un peu ta deuxième maison. Comment t'expliques que les judokas françaises soient aussi fortes, et c'est quoi un petit peu la recette secrète?
La recette pour faire secrète. Des championnes. Si ça se savait. La recette secrète, j'ai envie de dire que c'est le travail et l'engagement. J'ai eu l'occasion de commenter là les derniers championnats du monde de judo et j'ai retenu une phrase d'une des nouvelles championnes du monde. C'était Madeleine Malonga qui disait « Je ne triche pas ». Et en fait, je pense que c'est ça. Le secret ou l'une des raisons, c'est que les filles ne trichent pas. Je ne suis pas en train de dire que les autres le font ou que les garçons le font, ce n'est pas ça. Mais c'est que elles ne trichent pas, nous ne trichons pas. Je n'ai pas triché, moi. Quand je m'entraînais, je savais pourquoi je m'entraînais. Et derrière, parce que vouloir être champion du monde ou championne olympique, tout le monde veut. Mais qu'est-ce que tu es prêt à mettre en place pour y arriver ? En fait, c'est dans l'action que ça se passe. Dans l'action, mais après, il y a aussi quelque chose qui se passe au niveau mental. Donc, il y a tout ça. Et c'est tout ça combiné qui permet de... Après, ça fonctionne pas. Finalement, c'est pas vraiment ça qui est important. C'est qu'est-ce que tu es prêt ou prête à mettre en place pour y arriver ? Et ça, je pense que, on va rester sur le judo, mais qu'il y a, en tout cas, que les championnes qui ont réussi, c'est ça qu'elles ont mis en place.
Mais elle est sympa cette phrase « je ne triche pas » parce qu'elle veut dire plein de choses aussi, tu vois, tricher par rapport à soi-même. Il y a beaucoup
être de authentique. Sportifs qui... Moi, j'appelle ça être authentique, c'est l'authenticité. Ne pas se mentir.
Ok.
Je pense qu'une fois qu'on a compris ça, on a déjà compris pas mal de choses. Ça permet d'enlever certaines barrières et d'avancer. Et après, bon, il y a des générations, des fois, tu tombes sur des talents. Hein. Enfin, on va pas se mentir aussi. Hein. Des fois, tu tombes sur des talents, ça se passe hyper bien. Mais moi, le travail avant tout. Le travail avant tout.
C'est ce que tu dis aux jeunes aujourd'hui encore, où on se fait attaquer par une guêpe.
Oui, c'est ce que je dis, le travail avant tout. Mais pas travailler simplement pour travailler, mais savoir pourquoi tu travailles. Encore une fois, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il y a cet aspect mental aussi qui rentre en compte. Qui rentre en compte.
Et tout à l'heure, tu disais que tu avais pris une feuille de papier et que tu avais mis toutes les étapes qu'il fallait pour atteindre le...
C'est ma manière de fonctionner.
Ouais. Mais est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu comment tu fais? Parce que moi, j'adore un peu ce genre d'exercice, un peu de développement personnel ou d'objectif. Et en ce moment, je le refais maintenant pour moi parce que je redémarre des projets, on va dire, pas de zéro, mais je redémarre des projets. C'était quoi un petit peu ta méthode? Est-ce que tu te souviens un petit peu de l'exercice que tu avais fait plus en détail?
Bah, en fait, quand je suis arrivé à l'INSEP, donc les entraîneurs de l'époque nous disaient que c'était bien d'avoir un cahier d'entraînement et de noter les séances d'entraînement.
Ouais.
Donc, moi, je fais. On me dit je fais. Hein. Je faisais, mais je ne faisais pas que noter les séances d'entraînement, en fait. C'est-à-dire que dans ce cahier d'entraînement-là, je notais mes ressentis. Tout ce qui se passait, je notais. si j'étais bien à la séance, si j'étais pas bien, est-ce que j'ai pleuré, est-ce que j'ai pas pleuré, pourquoi est-ce que j'ai pleuré, dans quel état j'étais, la compétition, comment ça s'est passé, etc. etc. Et en fait, et y avait des mots-clés. Et ces mots-clés-là, je les entourais. Je les entourais. Et à chaque fin de saison, ce qui se passait, c'est qu'on faisait le bilan avec les entraîneurs. Donc ça, c'était comme ça, c'était la sorte de routine, mais ça, c'est ce qui se passe. Je veux dire, ça, c'est des principes d'entraînement ou d'encadrement d'athlètes. On faisait un bilan. En fait, moi, j'arrivais, et je sais parce que les entraîneurs, ils étaient tout le temps souvent surpris. J'arrivais avec mon cahier, et j'avais déjà mis, moi, mes objectifs pour la saison, ce que j'avais fait la saison passée, ce que j'avais fait mon bilan déjà, j'avais fait mon bilan et donc moi j'arrivais déjà préparé. Et après, bah, j'écrivais sur le cahier, bon, bah, objectif, on va dire, de prendre l'année 2003, objectif de l'année 2003, eh bien, championne de France, tournoi de Paris, championnat d'Europe, et je mettais les étapes en fait. J'ai dit, bah, moi c'est ce que je veux faire. Et à côté de mes objectifs sportifs, je mettais mes objectifs de formation. Ben moi, là, je suis en licence, je suis en troisième année de licence de droit. Mes partiels, c'est à tel moment et à tel moment. Voilà. Maintenant, on avance.
Ok.
C'est comme ça que je faisais. Et j'ai fait ça tout le temps. J'ai fait ça tout le temps.
Ah, mais c'est ok. C'est hyper instructif. Mais c'est un truc que j'ai complètement découvert avec ce podcast. C'est le pouvoir de la visualisation et de... on va dire, ouais, de la visualisation à la fois mentale et écrite de ses objectifs. Ouais. C'est quelque chose que je pense que beaucoup de gens n'imaginent même pas sur les sportifs de haut niveau.
Ouais.
À quel point on passe du temps à rêver son objectif, à l'écrire, sentir, à le un petit peu essayer de le ressentir avec nos cinq sens, notre sixième sens même.
Et après, je me suis fait aussi accompagner par une préparatrice mentale qui m'a aussi orienté sur des termes à utiliser, des mots-clés qui vont me permettre de me booster ou de changer ma manière d'être à un moment donné. Parce que moi, tout à l'heure tu disais que j'étais plus petite que les autres, oui c'est vrai, parce que les filles me rendaient une voire deux têtes, et du coup j'avais besoin de développer ce côté agressif mais positif. Alors que dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un. Ben, tu peux le constater. Enfin, je sais pas, mais
je n'ai pas encore été mordu.
Je suis plutôt tranquille, posé, mais j'avais besoin de bondir sur un tatami. Ouais. Et donc voilà, la préparation mentale m'avait orienté sur des mots clés qui allaient me permettre de me sortir de mes gonds. Et ça, je l'ai travaillé à l'entraînement avec les entraîneurs, l'entraîneur national, mais aussi mon entraîneur de club, Christian Chaumont. Et ça, pareil, dans le cahier, je le notais. Entouré, rose, dommage, j'ai pas apporté mon cahier d'entraînement, mais déjà, j'en ai deux, et puis le dernier, il est épais comme ça, quoi. Parce qu'il y a des trucs partout. Voilà.
Mais d'ailleurs, ouais, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que tu faisais ? C'était quoi un peu ton gris-gris avant un combat j'ai dit le mot gris-gris, c'est pas du tout le bon mot, mais est-ce que tu avais des petites routines des petits ancrages que tu faisais pour effectivement déclencher un petit peu plus de combativité, d'agressivité et d'envie, quoi, tout simplement ?
Oui, j'en avais. Après, c'est un peu paradoxal parce que à la fois j'en avais, mais à la fois j'essayais de m'en détacher pour pas en être dépendante.
Ok.
Parce que je ne voulais pas que dans un jour de moins bien ou quoi, et que je ne puisse pas faire, mettre en place mes routines, que ça fracasse ma compète. En fait, ça peut paraître bizarre, mais je fonctionnais comme ça aussi. Donc c'est... Oui, j'avais... Par exemple, il y avait un certain style de musique que j'écoutais pour être dans un rythme. Après, il y avait des mots-clés. Aussi bouge, vite, décale, voilà, et très court pour me permettre de me mettre dans un sort de mood. Moi, j'appelle ça pour mettre dans mon mood. Une manière aussi de gérer l'espace, mon espace, l'espace à l'échauffement. Et après, lorsque j'ai décidé de changer de catégorie de poids, que je suis descendu en moins de 63 kilos. J'avais mis en place des routines d'échauffement, réveil musculaire.
Ok.
Et après que j'ai gardé, quand je suis remonté en 70, quand je suis remonté en 70 kilos. Parce que je m'étais rendu compte nous étions rendus compte avec Cathy Fleury, j'avais du mal à me mettre en route. J'étais un diesel, quoi, tout simplement. Et que le fait de faire un réveil musculaire en amont, ça a été vu aussi avec le préparateur physique, donc il y a énormément de personnes, hein, en amont, de faire ce réveil musculaire-là, me permettait ensuite, direct à l'échauffement, d'être prête pour le judo, en fait.
Ok.
Voilà, j'étais déjà échauffée, mais j'étais prête déjà à commencer à faire des échauffements spé-judo, en fait, spécifique judo. Et après, à pouvoir rentrer crescendo dans la compétition.
Ok, ok. Bah, en tout cas, hyper intéressant. Tu as cité Cathy Fleury, ça a été ta coach pendant plusieurs années, il me semble. Ouais. Elle aussi, ça a été une grande championne de
elle a tout gagné.
De judo, ouais, franchement. Et moi, ma mère l'adorait, donc tu vois, je lui dirai tout à l'heure, elle sera jalouse. Mais ça t'a apporté quoi d'ailleurs de travailler avec une championne comme ça et...
Beaucoup de choses.
Elle entraîne encore, il me semble.
Oui, elle entraîne encore. Maintenant, elle est responsable pour la fédération des paras.
D'accord.
Des paralympiques. Donc, ils ont de la chance.
Ouais.
Et oui, c'est. Bah, déjà, c'est en termes de. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de détermination. Mais Cathy, c'est. Détermination fois 38, quoi. Donc déjà ça m'a aussi beaucoup apporté et puis bon le fait qu'elle ait tout gagné aussi mais c'est pas seulement la victoire c'est dans ce qu'elle a été capable à un moment donné de m'apporter et d'être à l'écoute de qui j'étais pour pouvoir activer les bons boutons si je peux dire. Et ça, oui, ça m'a été très bénéfique. Et notamment dans cette quête de changement de rythme et dans cette quête d'agressivité. Parce que ça a été un travail. Et on en a mis du temps avant que j'arrive sur mes premiers combats en mode Lyon et que ça ne bouge pas. On en a mis du temps. Parce que Cathy, c'est une forte personnalité. À un moment donné, cette forte personnalité m'a empêché d'avancer à un moment donné. Et donc, du coup, et c'est là où pour moi, c'est vraiment un grand entraîneur parce qu'elle a entendu. Parce que je suis allé la voir, on a discuté, on a échangé. Et du coup, elle a compris, elle a entendu. Et j'ai changé d'entraîneur à ce moment-là. Et elle a pas mal vécu, bien au contraire.
Ouais.
Et moi, ça, c'est une grande qualité que j'ai trouvée chez Cathy. C'est-à-dire capable d'être à l'écoute de l'athlète qu'elle accompagne et d'entendre ma requête à ce moment-là. Et quand j'ai été la rechercher, quand je suis remonté de catégorie de poids, elle a aussi accepté. Et je pense que c'est ça, c'est que la confiance qui est installée, et moi je pense que c'est primordial. C'est primordial dans une relation. C'est que de l'humain en fait. Hein.
Bien sûr.
C'est énormément d'humain. Donc beaucoup de respect, de confiance. Et avec tous mes entraîneurs d'ailleurs, j'ai toujours fonctionné comme ça. Authenticité,
ouais.
Respect et confiance. Voilà, Christian Chaumont, Martine Dupont, Yves Delvin, Cécile Novak, Cathy Fleury.
Ok, bah merci de les avoir cités. En tout cas, voilà. C'est cool de leur rendre hommage. Le temps file et tu m'as dit que t'étais un petit peu pressé.
Ouais, et puis on parle beaucoup. Faut que j'aille voir mon papa après. C'est
voilà,
pour ça.
Ok, bah alors j'aborde juste les deux trois questions de la fin. Il y a une question que j'aime bien demander. Si tu pouvais revenir quelques années en arrière et voir Jevries quand elle passait pour la première fois. La porte de l'INSEP et que tu pouvais être une petite mouche
ça ressemblait pas à ça
ou une petite abeille et si tu pouvais te mettre sur ton épaule et te donner un petit conseil ça serait quoi à l'époque
un petit conseil ce serait c'est quelque chose que je n'ai pas fait ou quoi, ou rien à voir, enfin je sais
non,
pas.
Non, ça peut être un petit conseil que tu te donnais quand à 18 ans. Si tu pouvais
À 18 ans, un petit conseil.
Ou sinon, tu sais quoi, si aujourd'hui il y a une jeune fille qui arrive et c'est son premier jour à l'INSEP et elle te dit je veux être championne du monde de judo, qu'est-ce que tu lui dis?
Mais en fait, je me dirais déjà à moi-même, ose. Ose, parce qu'au final, ce n'est que ça, le sport de très haut niveau. C'est oser. Oser repousser ses limites. Mmh. Oser s'engager. Oser faire des choix, même si ça peut aller à l'encontre de ce qui se fait d'habitude, tout en respectant toutes les règles. Hein. Mmh. C'est pas faire des trucs interdits, hein, bien sûr. Mais ouais, oser. Je pense que c'est ça, je lui dirais. À la petite juriste ou à une jeune ou à un jeune athlète qui rentrerait à l'INSEP.
Ok, trop cool, je retiens le conseil. Est-ce que tu as un livre, un film ou une musique à recommander en ce moment qui t'a marqué ces derniers temps?
C'est vrai que je lis pas mal, mais en ce moment je lis plutôt des livres sur l'accompagnement et le coaching parce que c'est mon métier aujourd'hui.
D'ailleurs, est-ce que tu as un bon livre à ce sujet
Celui que je lis en ce moment, c'est vrai qu'il est il est pas mal. Il y avait le coaching de Whitmore qui est assez intéressant, mais il y a un livre qui m'a marqué quand j'étais jeune, c'était J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian.
Okay.
ce livre m'a marqué, je l'ai lu, j'avais quoi, je sais pas, j'avais 12 ans, quelque chose comme ça, et il m'a marqué. Et d'ailleurs, j'ai envie de le relire. J'ai envie de le relire. Je sais pas pourquoi, mais bon. Non, il m'a vraiment marqué.
Si tu veux,
marqué,
je l'ai dans ma bibliothèque. Je reviens, je te le donne.
Il m'a marqué et ça m'a permis aussi de connaître, ou en tout cas, d'avoir un autre regard sur le monde aussi. Ouais.
Alors, et si je me souviens bien de l'histoire, c'est un jeune noir américain.
C'est ça.
Pendant la période de la ségrégation.
Ouais.
Et on raconte pas la fin parce
qu'on raconte pas la fin parce qu'il faut le lire.
Il faut le lire et c'est un très beau livre.
Et c'est un très beau livre et vraiment je le conseille. Ouais. Et quand on voit aussi ce qui se passe dans le monde, et ben voilà.
Ok. Petit mot de la fin. Quels sont, si tu veux, enfin quel est le prochain sportif que tu aimerais bien écouter sur ce podcast?
Ah, ça c'est intéressant ça. J'aimerais bien. Pourquoi pas Charles Leclerc, tiens. Parce qu'en fait, alors, c'est pas que. Enfin, disons que les sports automobiles, ce sont des sports que je connais pas du tout.
D'accord.
Et je trouve ça assez impressionnant, cette capacité à se mettre en danger. Parce que c'est quand même l'auto qui prend à un moment donné les commandes, même si le pilote est là et tout. Mais et en fait, ouais, j'aimerais bien.
Ok.
Donc tu te débrouilles.
je prends note.
Donc je peux en dire un autre ou une autre.
Vas-y,
et
vas-y.
Serena Williams, parce que je la trouve tout simplement extraordinaire.
Bah écoute, j'aimerais beaucoup Serena Williams pour avoir fait du tennis. Je pense que c'est la plus grande championne de tous
alors
les temps.
Là, tu parlais de longévité tout à l'heure, mais ouais. Elle, c'est incroyable.
Ouais, courage. Et puis, tellement de choses, tellement le combat qu'elle incarne, le style qu'elle incarne.
C'est ça.
La maternité, ouais. plein de choses. Donc, écoute, j'adorerais. Donc, je vais me lancer le défi personnel d'aller à sa rencontre.
Ouais. Ce serait cool.
Un petit mot de la fin pour terminer.
Un petit mot de la fin. Bah écoutez, merci de m'avoir permis d'échanger. C'était sympa de partager tout ça. Merci à Jackie Bicheux qui est mon professeur de judo qui m'a mis sur les rails parce que sans lui, je n'aurais pas eu cette carrière. Et puis il y a mes parents et mes frères et sœurs en fait à ma famille d'être à l'écoute ou d'avoir été à l'écoute. De mes envies.
Ok, on les remercie, on les embrasse alors.
Ouais.
Bah, merci beaucoup, Jevriz.
Écoute, de rien.
Salut.
Ciao, ciao.
Merci d'avoir écouté jusqu'ici. D'ailleurs, si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode et à aller lui mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me va droit au cœur. Je vous souhaite à la semaine prochaine pour une super interview.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.